Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Agnès Bonfillon et le journal de Yann Boucherie.
L'actualité, c'est effectivement avec vous, Yann, bonjour.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
À la une, la France reste la première destination touristique au monde.
Et certaines villes voient augmenter la fréquentation étrangère de manière significative. Tel est le cas de Marseille, grâce aux croisiéristes et au développement des vols low cost. Illustration avec vous, Hugo Hamelin, sur les quais de la cité phocéenne.
Effectivement, les accents se bousculent en cette fin du mois de juillet sur le Vieux-Port. On ne comprend pas tout.
We hebben een hele goede vakantie hier. Mooie stad, Marseille.
Catherine est hollandaise. Elle vient de poser pied à terre après une balade de 5 heures sur le maxi catamaran Léventin, amarré sur le Vieux-Port. Il emmène chaque jour une soixantaine de touristes dans les calanques. Toto est le capitaine.
On a beaucoup de Hollandais, d'Allemands. C'est impressionnant. On a beaucoup de Brésiliens. Il nous arrive de plus en plus de Chinois, notamment aussi. Il y a même des croisiéristes qui sont là pour la journée, qui, en plus de leur croisière, viennent chez nous visiter le cœur du parc. Et c'est génial. Ça nous fait du travail. Et du coup, tout le monde est content.
Les touristes comme Denis de Bruxelles se régalent à découvrir Marseille par la mer plutôt que par ses petites rues embouteillées.
C'est plus calme et puis on voit plus de choses déjà, comme les petites criques, les restaurants sur bord et tout ça. Puis les îles, Château d'If, on voit tout, donc c'est bien.
Marseille espère dépasser cette année la barre des 5 millions de touristes atteints en 2018.
Le reportage d'Hugo Hamelin à Marseille pour RTL.
Toujours au chapitre tourisme, un projet suscite la controverse en Loire-Atlantique.
Un rassemblement a eu lieu hier après-midi à Saint-Père-en-Ré, au sud-ouest de Nantes, pour dire non au surf park, c'est difficile à dire, qui doit ouvrir sur la commune en 2022. Un chantier initié en 2014 est estimé à 15 millions d'euros avec une école de surf affiliée à la Fédération française. En ligne de mire, les potentielles retombées induites par les JO de 2024. Mais surfer sur une vague artificielle à 10 km de l'océan, c'est une aberration pour Mireille, une habitante de la région.
Un projet qui est atterrant. On a une semaine de canicule où c'est invivable. L'évaporation de l'eau dans des surfaces comme ça, ça va être effrayant. Et on a besoin de terres arables pour nourrir les gens. Parce qu'avec ce qui se prépare, ça ne va pas être facile de cultiver céréales et légumes dans l'avenir. Je pense que c'est un problème primordial. Je vois bien que les petites communes, elles sont un petit peu mortes. Il n'y a pas autant d'activités qu'à Nantes, c'est clair. Mais bon, est-ce que c'est ça qui va... Et je pense que ce projet, il n'est pas viable sur le long terme. Dans 10 ans, ce sera fermé, ce sera une ruine. Et puis voilà, il y a beaucoup d'argent qui sera dépensé. Je pense qu'il serait mieux ailleurs. Il y a beaucoup de misère déjà. Donc c'est pas en bétonnant des places, en mettant des parkings et en proposant aux gens de choisir entre un loisir A et un loisir B qu'on va pas vers la liberté. C'est de la consommation, c'est que de la consommation.
Mireille, une habitante de Saint-Père-en-Ré au micro RTL de Martin Choc. Air France va renouveler une partie de sa flotte. Selon le journal du dimanche, le conseil d'administration de la compagnie devrait confirmer mardi la commande ferme d'une soixantaine d'Airbus de type A220. Cet appareil de 100 à 150 places dispose d'un rayon de vol supérieur à 6000 km, ce qui lui permet de desservir les destinations long courrier. Toujours dans le JDD, une centaine d'entreprises et syndicats du secteur de l'alimentation publient une lettre ouverte au Premier ministre Édouard Philippe. Tous dénoncent la réforme de l'assurance chômage, qualifiant de coup de poignard le projet de bonus-malus imposé aux employeurs qui font appel aux contrats courts et aux emplois saisonniers.
RTL 7h34.
Dans l'Hérault, la mobilisation de tout un village pour éviter l'expulsion d'une famille albanaise.
Menacée de mort, la maman a fui son pays il y a 2 ans avant de trouver refuge en septembre dernier à Fraye-sur-Agout. Mais le 10 juillet, avec ses 2 enfants, elle a été frappée d'une obligation de quitter le territoire. Depuis, les habitants font corps pour soutenir Flora et sa progéniture à l'Intibal.
Pour la première fois de leur vie, confie Sandrine, Flora, Ben et Iris, ces 2 garçons, avaient enfin trouvé la paix. Ils se reconstruisaient, faisaient des projets, nous avec eux. Flora n'avait plus peur et aujourd'hui, à nouveau, fustige-t-elle. Elle doit se cacher avec ses enfants.
J'en ai les larmes aux yeux. On continue à la chasser de lieu en lieu et elle est physiquement et psychologiquement épuisée. Elle n'a pas le droit de vivre. Elle n'a pas un endroit où on lui dit « là, vous avez le droit de vous occuper de vous et vos enfants, d'aller à l'école et de construire un avenir. » Ses enfants sont à nouveau dans des stress. Les regards partent dans le vide. Enfin, c'est absolument insupportable.
Ben devait passer en 3e, Eric le petit en 6e brillamment, explique Delphine. Ils devaient s'amuser, jouer, profiter des vacances cet été avec leurs copains du village. C'est insensé.
Je suis devenue amie avec Flora et mes enfants sont très amis avec les garçons. Leur place est établie, leur maison c'est là, c'est ici, c'est fait, c'est leur village. Je pense qu'ils ont droit à la paix.
Le maire du village a trouvé un travail pour Flora. Leur intégration est parfaite, dit-il. Il vient de déposer une demande de recours gracieux. On fera tout pour cette famille. Leur place est ici.
Le reportage dans les Rois d'Aline Thibal pour RTL. Une agression homophobe vendredi soir dans les rues de Villeurbanne. Un couple d'hommes qui se tenaient la main a été pris à partie par une vingtaine d'individus et insulté. Les victimes frappées sur l'ensemble du corps se sont vues prescrire 2 et 15 jours d'ITT. Les assaillants ont réussi à prendre la fuite. Et puis la permanence électorale d'un député LREM prise pour cible hier par des gilets jaunes à Perpignan. Les vitres du local ont été brisées et un début d'incendie a été constaté par le député Romain Gros présent sur place qui a décidé de porter plainte.
En Tunisie, des milliers d'habitants ont rendu hommage à leur président Essebsi, décédé jeudi dernier.
Une cérémonie officielle a d'abord réuni la famille, des officiels et plusieurs dirigeants étrangers, dont Emmanuel Macron. Ensuite, le cortège funèbre a parcouru une vingtaine de kilomètres dans les rues de Tunis, au milieu d'une population venue en nombre, Mathias Reynal.
Sur la route, au loin apparaissent des cavaliers en tenue d'apparat. Derrière eux, on distingue un camion militaire. Sur le capot a été tendu un drapeau tunisien. C'est le cortège funèbre de Béjikaïd Essebsi. La foule craque. Des cris, des pleurs, une vieille dame tombe à la renverse et emporte avec elle une barrière. L'émotion est inouïe.
C'est impossible de le remplacer. Je souhaite à chaque pays arabe d'avoir un président comme le nôtre. C'est notre père, toute la Tunisie est triste. C'est lui qui a ressuscité le pays.
Souvent présentée comme une démocratie fragile, la Tunisie vient de vivre une transition pacifique. Mohamed Ennasser est son nouveau président.
Mon compagnon de route, nous allons poursuivre ce qu'on a commencé ensemble. Bâtir une nation démocratique basée sur les droits les plus fondamentaux et l'efficacité des institutions.
Très ému en prononçant cet éloge funèbre, le chef d'État par intérim, mais ses premiers pas de président dans ceux de son ami Béjikaïd Essebsi.
Mathias Reynal à Tunis pour RTL. À l'issue de la cérémonie, Emmanuel Macron lui est retourné dans le Var où il s'est offert un bain de foule à Bormes-les-Mimosas. Le président français a annoncé qu'il recevrait son homologue russe Vladimir Poutine le 19 août au fort de Brégançon. À noter qu'au même moment, à Moscou, la police a arrêté plus de 1000 personnes qui manifestaient pour réclamer des élections libres.
Une pause dans ce journal avant les derniers kilomètres du Tour de France 2019.
RTL Matin.
Si le passe.
RTL Matin, 7h38, la suite du journal. Yann Boucherie, Agnès Bonfillon.
C'est bientôt l'heure de la quille pour les coureurs de la Grande Boucle.
Les positions sont figées après la 20e étape, remportée hier à Val Thorens par l'Italien Vincenzo Nibali. Le Colombien Bernal ramène le maillot jaune à Paris et devient l'un des plus jeunes vainqueurs du Tour. Julien Alaphilippe, lui, a reculé à la 5e place du classement. Il ne figurera donc pas sur le podium ce soir. Romain Bardet, en revanche, a conservé son maillot de meilleur grimpeur. L'heure du bilan, donc, et des souvenirs pour le peloton. Johan Ofredo, dernier Français au général, à 4h29 du maillot jaune, est presque triste de descendre de vélo ce soir.
Tu refais le cours de tes 10 derniers jours, voire de tes 20 derniers jours, et tu te dis, voilà, il y a eu des beaux moments, mais il y a eu des très très durs moments. Et bizarrement, dans les deux derniers kilomètres, j'avais une forme de nostalgie. J'étais un peu triste, en fait, que le tour soit presque fini. Alors que ça fait 10 jours que j'ai mal, ça fait 10 jours que je galère. Mais finalement, au bout d'un moment, tu te complais dans la souffrance. Tu t'y fais à cette souffrance et elle fait partie de toi et elle fait partie de ton quotidien.
Johan Ofredo au micro RTL de Quentin Vinet. Aujourd'hui, plus de souffrance, mais une jolie parade jusqu'aux Champs-Élysées.
RTL, Tour de France 2019.
Fenêtre sur Tour.
Avec Christian Laborde.
Et un départ de cette ultime étape à 18h10 de Rambouillet, si l'on peut encore parler d'étape, Christian.
Le Tour de France arrive à Paris, où il n'y a plus d'étape depuis la victoire, en 2005, d'Alexandre Vinokourov, qui avait résisté au retour du peloton. Sur les Champs-Élysées, depuis 2005, on assiste désormais à un défilé sans relief, de vélos, de maillots, de casques et d'oreillettes. Ça tourne, il y a la cloche, mais il n'y a pas la course. Juste un sprint massif, illisible. Tout à l'heure, sur les champs, ça sprintera. Le vainqueur lèvera les bras et son nom, on l'oubliera. À Paris, ça n'imprime pas. Nous exigeons le retour du Tour à Paris. Nous voulons une étape, une vraie étape, avec un tour qui peut se gagner ou se perdre dans les rues de Paris le dernier jour, comme ce fut le cas en 47 avec la victoire d'Orobic, comme ce fut le cas en 68 avec celle de Jan Janssen. En ces temps-là, il y avait du suspense l'après-midi à Paris. Du suspense dans les rues de Paris et sur la piste du Parc des Princes, puis de la Cipale. Nous voulons du suspense. Nous voulons une piste, un vélodrome, transformant le palais Brongniart, qui ne sert plus à rien, et dont les murs s'ennuient, en vélodrome. De nouveau la joie, de nouveau la fête, de nouveau le tour à Paris.
Et un final du Tour de France à vivre sur RTL, notez-le, jusqu'à 22h30. Grande soirée sport qui commencera d'ailleurs à 18h30 avec RTL en direct de l'équipe, dont l'invité sera l'ancien nageur Yannick Agnel. Il évoquera la médaille de bronze tricolore sur le 4x100 mètres mixte au championnat du monde en Corée. En football, la Ligue 2 et la victoire de Lens au Mans hier. Les Artésiens se sont imposés sur le score de 2-1. Et puis en match amical en Chine, le PSG a concédé le match nul 1-1 face à l'Inter Milan avant de s'incliner au tir au but. Enfin en Formule 1, Lewis Hamilton s'élancera tout à l'heure en pole position du Grand Prix d'Allemagne, 4e place pour Pierre Gasly, 6e position pour Romain Grosjean et seulement 10e pour le monégasque Charles Leclerc.
Merci beaucoup Yann Boucherie, à tout à l'heure, 8h30. Toute l'actualité est évidemment à retrouver, hein, vous le savez, sur notre site rtl.fr.
Bon réveil avec RTL, 7h42.